Caroline aime profondément la vie. Caroline, c'est une boule d'amour, une boule d'énergie. Caroline raconte les histoires comme personne. Je pourrais l'écouter pendant des heures, je me régale de ses connaissances, de sa sagesse. Caroline, j'ai l'impression qu'elle nous vient de la nuit des temps, à point nommé pour nous guider dans le chaos qui vient de commencer. Elle est animée d'un immense enthousiasme pour réinventer notre système de la tête aux pieds. Caroline, c'est mission impossible de la résumer, je ne vais donc même pas essayer. Elle ne rentre dans aucune case, mais telle une grande magicienne, elle nous ouvre les portes de sa bibliothèque vivante pour transmettre sans compter. Le challenge quand on a face à soi un tel puits de conscience, c'est de le canaliser. Ensemble, avec Caroline, on a tenté de le relever. Je suis Nathalie, coach professionnelle, co-créatrice de Club Culotté et gardienne de l'écolieu d'où nous vous parlons aujourd'hui. Ça se passe au bout du Finistère, quelque part entre le vert et le bleu. Mon truc à moi, c'est de réveiller ce qu'il y a de plus vivant, sauvage et souverain chez les humains. C'est devenu un enjeu de société, autant qu'une nécessité individuelle pour se retrouver. Alors ce podcast, c'est un véhicule pour l'inspirer. Je vous laisse avec joie découvrir ce nouvel épisode de Créez-moi sur parole, particulièrement foisonnant. On y parle de colère, comme moyen d'émergence de notre créativité, de fonctionnement humain, de krill et de cerveau reptilien, de systémie, des cris de la jeunesse, de mal à la planète, d'espoir, d'un principe qui change la vie, de matière et d'esprit, en somme d'alchimie. Le tout saupoudré de joie, de rire, de larmes et de poésie, avec comme fil conducteur la vie. Alors accrochez-vous, mais décrochez vos ceintures, ouvrez grand votre cœur et vos écoutilles, et c'est parti. Bienvenue Caroline.
Merci de m'accueillir Nathalie.
Je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast Créez-moi sur parole. En plus c'est un peu exceptionnel, une nouveauté, nous sommes dehors.
C'est très chouette.
Nous ne sommes pas que toutes les deux, ça peut paraître mystérieux comme commentaire, mais déjà il y a une petite chienne à côté, donc si vous entendez des ronflements ou des ouf, c'est pas nous. Enfin, a priori.
Peut-être. Il y a le bruit de l'eau.
Il y a le bruit de l'eau, tout à fait, aussi. Et puis, voilà, on a un beau jardin devant nous.
C'est magnifique.
C'est le début du printemps. Ouais. Alors, ce podcast s'appelle « Créez-moi sur parole » et il tente d'articuler inspiration et création, spiritualité et créativité. Autrement dit, ce que l'humain fait entre son monde intérieur et puis sa capacité à créer à l'extérieur. Et du coup, commençons par le commencement. Qui es-tu, Caroline ?
Alors, c'est une question qui me laisse souvent perplexe, parce qu'il va falloir que je me résume. C'est compliqué.
Eh bien oui, elle n'est pas facile.
Qui es-tu ? J'ai envie de te dire, je suis un paquet de quelques milliards de cellules qui tentent de fonctionner ensemble.
Qui tentent.
Et ouais, ça marche bien en mode automatique, et puis... je traverse cette vie en faisant plein d'expériences et je suis tout ça, toutes les expériences depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis partie dans plein de directions et je suis toutes ces expériences-là. J'ai envie de te répondre comme ça aujourd'hui.
Merci pour ça. Juste avant qu'on commence, on parlait du nombre de personnes, d'êtres vivants que nous étions ici. Tu penses qu'on est combien, en fait ?
Alors, il y a plusieurs réponses possibles, et ça, c'est toujours très sympa. Là, pour l'instant, on est deux êtres humains assis sur des pierres. On est aussi, plusieurs milliards de cellules. Mmh. On est, si on pense à l'énéagramme, on est au moins 12. Au moins 12, voire... une vingtaine de parties. On est, si on pense aux petits mois, on est 2 × 949 petits mois assises ensemble.
Ça fait du monde.
Ça fait du monde. Si on pense systémie, on est tous nos ancêtres et toutes nos vies antérieures assises là dans ce superbe jardin.
Ça va être le brouhaha alors ?
Non.
Non.
Alors... non, ça va être un peu compliqué peut-être, mais on va essayer de les faire parler les unes après les autres.
Complètement. Tu mentionnais juste à l'instant l'énéagramme. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que justement, et ça rejoint la question suivante en plus, qu'est-ce que c'est ?
Alors, synthèse. L'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi qui existe depuis on ne sait pas quand, mais depuis longtemps, qui nous a été ramené en Occident début du 19e, fin 19e, début 20e par Georges Gurdjieff, qui est allé s'initier dans des confréries soufis. Il nous a ramené une typologie de personnalité, en fait, une capacité de comprendre les personnalités, les dynamiques entre ces traits de personnalité. Et le symbole de cet outil, c'est un cercle avec 9 points. Et ces 9 points sont des traits de personnalité qui fonctionnent en lien entre elles, ces personnalités. Et ça nous permet un peu mieux comprendre les dynamiques automatiques. Et ça nous permet de voir comment on peut passer du mode automatique au mode « je décide et j'agis ». Bon, et il y a plein d'autres outils pour faire ça.
Oui, bah justement, moi je sais que j'aime bien t'appeler une bibliothèque vivante. Je sais pas si ça te sied, mais voilà, c'est vrai que tu as plein d'outils dans ta boîte à outils, justement. Ça m'amène à la deuxième question. Qu'est-ce que tu considères créer aujourd'hui ou faire dans ce monde, Caroline ?
Alors, d'abord, aujourd'hui, je m'émerveille de voir ce qui émerge à partir de la colère des personnes, des jeunes, des moins jeunes, sur le monde tel qu'il s'est développé. Et cette colère est en train de faire émerger tout un tas de créativité sur le monde qu'on a envie de voir émerger, déjà chez soi, et puis après en collectif, et puis en fait au sein de toute l'humanité. Et moi, je m'émerveille de ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et pour aider ceux qui vont croiser ma route, je ne sais pas s'ils seront nombreux ou pas, peu importe, mais moi, ce que j'apporte, c'est la compréhension justement de ce fonctionnement humain, et pour l'aider à s'ouvrir à cette créativité, à cette incroyable chance qu'on a de recréer un monde. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et je suis pleine d'espoir, et je vois à quel point ça bouge vite, à quel point les jeunes en particulier ont déjà intégré tout un tas de choses.
Bon, alors là,
on va juste faire une pause. On fait une pause.
De toute façon, on peut le laisser. Hein.
Une petite juste incursion.
Spicy, il faut sortir de là. Allez, je sens que je vais rigoler en réécoutant cet enregistrement. On va continuer. J'espère que tu t'es arrêtée à la fin d'une phrase.
C'est pas sûr.
Alors bon, en toute sincérité, non seulement il y a un petit groupe de vététistes qui est passé, c'est les contraintes de l'extérieur, n'est-ce pas ? Mais notre amie Spicy qui est venue s'immiscer. Caroline, tu parlais de quoi déjà ?
Ben, de ce que j'avais envie de proposer à ceux qui allaient croiser ma route, des temps pour comprendre finalement comment ça fonctionne dedans. Comment ça fonctionne entre le dedans, le dehors, dedans de soi, dehors. Ce que j'ai compris de mon petit périple à moi de quelques quarantaine d'années, ce qui est très court à l'échelle géologique. Et rassurer les gens que tout va bien, que des révolutions, on en a eu plein, que la planète a eu plein d'états différents, que la vie est très très forte et que l'univers est rempli de toutes les molécules qu'il faut pour faire la vie, et que la planète est juste extraordinairement bien placée pour accueillir la vie, et que l'humain a une intelligence extraordinaire.
Et concrètement, du coup, toi, tu proposes quoi aux gens alors ? Comment tu les accompagnes ? T'as cité quelques outils là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi ?
Qu'est-ce qu'on peut faire avec moi ? C'est très vaste comme question. Je peux te partager ce que j'ai compris en rencontrant des personnes absolument formidables et aussi des livres, donc des auteurs incroyables. Mmh. Quand tu me poses la question, mais comment... Quand je te parle de cette possibilité de choisir dans quel monde on a envie de vivre, comment créer la vie, en fait, j'ai compris comment on a une espèce d'intelligence subtile qui nous permet de créer ce qu'on va vivre. C'est pas sans effort, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme et de joie à aller trouver dans ce qu'on a envie de vivre. Et ça se déroule, du coup. Et ça, je l'ai découvert grâce à Frédéric Lenoir et Spinoza. Hein, le miracle Spinoza. Et que j'ai relu plusieurs fois pour bien toucher ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est un éclairage énorme. Et donc, essayer de faire comprendre dans la chair ça aux autres, c'est une joie immense. Mmh. Voilà. C'est une joie immense parce que... Et puis, ça soulage. Ça soulage. On n'est plus obligé d'être dans un effort souffrant. On peut être dans un effort joyeux.
Oui, parce que ce que tu dis, si je comprends bien, c'est qu'on peut avoir compris peut-être avec sa tête, mais quand tu dis dans sa chair...
Oui, ça n'a rien à voir. Moi, je vois bien, je comprends beaucoup de choses dans ma tête. Je suis très mentale. Je lis beaucoup de livres. Je comprends beaucoup de choses. Mais en fait, la compréhension... vibratoire, physique, c'est encore autre chose et ça a un rythme très différent du rythme mental chez moi. Alors ça parle de mon fonctionnement à moi, d'autres fonctionnent très différemment. Hein. Il y en a qui fonctionnent par le physique et qui comprennent beaucoup de choses par le physique d'abord et qui ne mettent pas en mots. Et le fait d'entendre les mots, ça arrange dedans. Et quand ça arrange, ça aligne. Voilà. Moi, je vois ça est très dynamique dedans.
Ça bouge tout le temps, non ?
Et ça bouge tout le temps. C'est ça qui est chouette.
Ce que tu n'as pas mentionné, c'est que tu as une formation de biologiste ou d'ingénieur en biologie.
Ingénieur agroalimentaire. Alors, c'est beaucoup moins sexy que ce que tu dis. Mais la chance que j'ai eue, c'est en prépa bio, on a appris beaucoup de choses. Du coup, on a plongé dans la systémie tout de suite. Quand on plonge dans la vie, quand on est l'ingénieur du vivant... On plonge dans la systémie tout de suite parce que on comprend les systèmes, on comprend comment fonctionnent les cellules, comment fonctionnent les systèmes à plus grande échelle. On comprend qu'il y a eu des paléo-environnements, que tout a bougé, que les montagnes d'avant, c'est plus du tout des montagnes aujourd'hui et que grâce à ça, ça crée autre chose. Donc... on comprend tout ça et puis ça met, moi je trouve beaucoup de joie dans le vivre.
Mmh. Oui, ça revient.
Donc ingénieur et ensuite ingénieur, j'ai remarqué que l'humain était un petit peu oublié dans le cursus ingénieur. Mmh. Et je suis allée chercher moi l'humain d'abord dans le sport et puis après je me suis formée à toutes les thérapies brèves, à tout ce qu'on peut rencontrer autour de ce métier de coach, de formateur. Là, on ne peut pas faire sans l'humain. Donc, on est obligé d'aller un peu s'intéresser à ce qui se passe dans l'humain. Donc, j'ai eu de la chance de pouvoir rencontrer la PNL, l'approche narrative, l'énéagramme, tout un tas de personnes derrière ces mots-là. Et puis aussi d'être très curieuse au niveau des courants spirituels. Depuis toute jeune, je me pose beaucoup de questions métaphysiques, comme beaucoup d'enfants. Hein. Et de continuer de chercher, puis de rencontrer.
Tu l'as évoqué plusieurs fois là, la systémie.
Oui.
Je trouve ça intéressant. Et tu parles du vivant et toute cette coopération entre toutes choses vivantes dans ce monde. Je trouve que c'est un de tes grands talents. Tu peux nous en dire un peu plus sur la systémie ? Pourquoi tu penses que c'est peut-être vraiment un outil très utile, puissant et peut-être même important aujourd'hui de comprendre les choses de manière systémique ? Ou de les appréhender ainsi plutôt.
Alors là, la question, elle m'emmène. Je ne sais pas trop par où commencer, du coup. La systémie, C'est l'art de voir la complexité des choses qui s'imbriquent les uns avec les autres. Alors, tu as parlé de coopération, mais il y a aussi de la concurrence, il y a de l'interdépendance, il y a de la symbiose, il y a du parasitisme, il y a tout un tas de façons d'être reliés les uns avec les autres. Et le tout, c'est de s'en rendre compte, c'est de voir où est, quelle est sa place. Et donc, il y a des lois de la systémie hyper intéressantes à comprendre et hyper simples. Et quand je vais t'en parler, tu dis oui, bon sang, mais c'est bien sûr, en fait, c'est du bon sens.
Et c'est bien de les nommer.
Et c'est bien de les nommer. Voilà, encore les mots, hein. La magie des mots, c'est très, très important. Quand on nomme, alors ça existe, ça clarifie. Quand c'est clair, alors on sait où on met les pieds, hein. Et du coup, c'est... Voilà. Donc, la systémie clarifie quand même... que la vie n'est pas linéaire, que c'est plutôt circulaire, c'est plutôt spirale, c'est plutôt multiple. Y a un outil extrêmement intéressant qui est utilisé là par les biologistes qui font des études sur les écosystèmes. Et ils mettent, en fait, ils fabriquent des graphes extrêmement intéressants où les animaux vont se trouver en lien en fonction de ce qu'ils mangent. Et on va se rendre compte quelle est l'espèce vivante qui fait tenir tout l'écosystème. C'est une espèce qui va du coup devenir une espèce clé. Et donc, ils vont étudier un écosystème et ils vont voir finalement, mais par exemple, au niveau de l'écosystème marin, c'est une toute petite crevette, le krill, qui est le pilier de l'écosystème. Et donc, ça crée non pas une ligne ou un organigramme ou quelque chose de pyramidal, ça crée un cercle. Et ça, c'est fabuleux, et on voit les liens. C'est très compliqué, hein, c'est très complexe. Mais voilà, systémie, c'est ça, c'est comment clarifier une complexité.
Ouais, on a peut-être un peu oublié ça, en fait. C'est vrai, dans notre système humain, tu parlais de complexité, non pas de quelque chose de plutôt circulaire plutôt que pyramidal. Oui. Ça fait du bien de voir ça, non ?
Oui, et que c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Par exemple, quand on découvre que... l'arbre de vie, l'arbre des espèces vivantes, quand on remonte dans le temps, finalement, c'est pas linéaire. Nous humanoïdes, humains, sapiens, on descend pas d'une linéarité d'une seule espèce. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, c'est un buisson. On descend d'un buisson qui a fait qui a marcoté. On a du mal parfois à remonter des branches du buisson au buisson originel. Et du coup, on est plus sûr supériorité de sapiens. Moi, le jour où j'ai compris qu'on avait entre 3 et 5 % de gènes néandertaliens, j'ai eu une joie immense.
Parce que
nous ne sommes pas des purs. J'adore ça. Moi, j'adore ce genre d'infos. J'adore ça. On est métissés, on est métissage. On porte en nous l'histoire de tout un tas d'espèces, en fait. Et c'est fabuleux de comprendre ça. Que dans notre cerveau, il y a une partie qui est reptilienne. Hein, c'est énorme de savoir ça.
De quelle manière tu penses que ça peut nous aider de comprendre tout ça ? Parce qu'on voit, on sent toute ta passion sur le sujet. C'est ce que j'adore. Concrètement, quelqu'un qui écoute et qui t'entend, comment tu penses que ça peut nous aider ?
Par exemple, j'aime bien moi expliquer parfois aux personnes qui ont la gentillesse de m'écouter cette partie-là qu'on a un cerveau reptilien, un cerveau limbique et un néocortex. Alors c'est simpliste, hein, comme un neuroscientifique, il aurait un détail beaucoup plus intéressant à raconter, et de dire, voilà, on a un petit côté crocodile en nous qui fait qu'on attaque ou qu'on se défend ou qu'on va, on va bouffer l'autre. Ou voilà, on va être un peu prédateur comme ça, sans trop d'émotion. Voilà, ça existe en nous et on peut faire la paix avec ça. C'est plutôt chouette que ça existe parce que c'est grâce à ça qu'on est en vie. Hein. Et puis, qu'on a un limbique. Alors, le limbique, c'est quoi ? C'est le lien. En fait, c'est la source de l'âme, parce que l'âme, c'est tous les liens qu'on a tissés avec les gens qu'on a croisés. Et ça, c'est une autre intelligence encore. C'est une intelligence qu'on peut cultiver, développer, et qu'on connaît très peu dans notre pays, parce que nous, on a développé vachement le néocortex. Le néocortex, c'est d'abord il est divisé en deux. Hein. On a bien un cerveau à gauche, un cerveau à droite qui sont reliés hein, par un petit pont. On a ce côté analytique, intelligence logico-mathématique. On a tout un tas de capacités de résoudre un problème de façon rationnelle. D'observer, de noter, d'avoir une approche très scientifique des choses, j'aime pas dire froide parce que on peut interpréter négativement, c'est ni négatif, très factuel, voilà. Mmh. Voilà, c'est mieux que froid, très factuel. Et puis il y a un autre côté dans ce cortex qui est plutôt analogique, qui est plutôt artistique, qui est plutôt buissonnant, arborescent, voilà. Donc, ça, c'est très propre aux humains, alors aux primates d'abord, après ça va se développer, puis aux humains, et ça, c'est vraiment nous, ça. On le surdéveloppe à l'école, au détriment des autres, et intelligence. Et j'aime bien faire se re-rencontrer quelqu'un avec toutes ces intelligences-là, et de voir qu'il peut les développer, en prendre soin, pour être capable de mieux s'adapter hein, et d'être encore plus créatif et de s'autoriser à. Ça j'aime bien expliquer finalement, revenir à la physiologie, revenir au concret, on est quoi quand on sait que nos os intégralement se changent en 3-4 semaines, ça rend les choses vachement intéressantes, c'est-à-dire que tout change tout le temps. L'impermanence, c'est hyper intéressant de contacter ça, parce qu'on se croit tellement permanent. On se croit tellement stable, tellement... Et c'est faux. Et c'est pas grave, justement.
L'impermanence, c'est la seule permanence, finalement.
Oui, la seule certitude, c'est que tout est impermanent.
Et alors, nous ne suivons pas du tout les questions
prévues,
n'est-ce
pas ? Non, pas du tout, mais ça, j'étais très au courant. Hein.
Je m'en doutais aussi un petit peu. Je trouve intéressant de faire le lien, du coup, de t'interroger sur le lien que tu peux faire entre le fait de constater comment nous, les humains, de quoi on est fait et comment on fonctionne et d'utiliser cette observation de notre nature, on peut dire, et justement la crise existentielle, civilisationnelle que l'on traverse, est-ce que tu vois des ponts et justement quelque chose dans cette compréhension qui pourrait nous aider à traverser ce qui se passe aujourd'hui hein?
Oui, cette question que tu me poses, ça m'emmène à cette réflexion de voir que tout au long des millions et milliards d'années d'évolution du vivant, il y a des espèces qui restent encore aujourd'hui, qui ont traversé des moments de crise, et il y en a qui ont disparu. Elles n'ont pas su s'adapter. Elles se sont peut-être surspécialisées à un environnement. Et puis, l'environnement a changé. Et alors, elles ont disparu. Et puis, il y a d'autres espèces, l'environnement a changé, et on ne sait pas pourquoi, elles ont peut-être ressenti les choses avant, et en tout cas, elles se sont adaptées, elles se sont protégées et elles ont traversé les temps, les crises. C'est pour ça qu'on a encore des limules aujourd'hui, des êtres absolument incroyables qui nous arrivent. C'est des espèces de dingue. Quand on les voit, on se dit mais d'où ça sort ça ? Et en fait, ça sort d'il y a des millions et des millions d'années. Et d'autres espèces qui n'ont pas traversé les âges parce qu'elles ont... Elles n'ont pas su s'ouvrir. Une cellule, c'est totalement une bactérie. Les bactéries, c'est les premiers êtres vivants. Hein. Les bactéries sont restées très, très, très en lien avec leur environnement. Et il y en a qui ont disparu, puis il y en a qui ont survécu. Et c'est ça qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, tout système qui reste fermé sur lui-même a peu de chances de s'en sortir. Or, ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est une espèce de contraction d'un système qui a été mis en place depuis l'industrialisation. Une espèce de contraction de non, on ne changera pas. et qui n'est pas ouvert sur les fines traces de changement qu'il faut faire, et ça vient, hein, ça vient, hein. C'est extraordinaire, ça vient, moi j'ai beaucoup d'espoir, et les systèmes qui vont garder des ponts ouverts sur ce qui se passe dehors, sur les cris de la jeunesse, sur les appels au secours, sur les pointages de doigts sur ce qu'il faut regarder, ces systèmes qui restent ouverts à ça, eh ben, ils vont s'adapter. Et puis, il y a plein de systèmes qui vont traverser cette crise et qui vont faire qu'on va rester vivant. Hein. Moi, je crois en ça.
Qu'est-ce que tu... Beaucoup d'émotions, t'es
contente ? Oui, je vois, je vois.
Je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est là. Qu'est-ce que tu penses de... du fait de... Est-ce que tu as de l'espoir ? Qu'est-ce que tu penses de ce mot, d'ailleurs ?
L'espérance. L'espérance, c'est dans les étoiles. Tu vois, quand on regarde les étoiles la nuit, on se projette et on est inspiré par les étoiles. Et les mondes à venir sont dans les étoiles. Hein, mm-hmm. Parce que l'homme, en regardant les étoiles, il rêve. Hein, et puis en rêvant, on pose des intentions comme ça et on a notre cœur qui bat pour un rêve plus que pour un autre. Et donc, c'est ça qui va faire que ce rêve-là, il va peut-être se réaliser. Hein. Et c'est ça pour moi l'espoir, c'est de réussir à se poser, à regarder le néant, à voir qu'il y a des étoiles dans le néant et à se dire, ben voilà, qu'est-ce que je me souhaite ? Qu'est-ce que je nous souhaite ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Et je pense que le néant nous inspire.
Oui, et se mettre en... Je te pose la question exprès, je sais que tu aimes le travail de Johanna Messi sur le travail qui relie. Je sais qu'elle fait, moi quand j'ai découvert ça, ça m'a fait un ouf de soulagement, une distinction entre l'espoir et l'espérance. J'ai toujours jamais aimé ce terme d'espoir parce que je trouvais ça très attentiste. Et quand j'ai entendu le mot espérance, je me suis dit, ah là il y a un mouvement. Là, y a
c'est
un
pour
mouvement
ça que je t'ai recadré le mot.
Accès, tout à fait. C'était une belle perche tendue. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce travail qui relie, sur tout ça. Je sais que ça t'anime aussi.
Ce qui nous relie, nous tous, là, profondément, c'est l'intelligence du cœur, hein, plus que... Et à partir du moment où on commence à partager ce qui vibre dedans et ce qui vibre dehors, ça crée des liens. C'est très vibratoire, en fait. Et en fait, quand on commence à réfléchir et à lire, à s'intéresser, tout est onde, tout est vibration. Et toi et moi, on est liés par les vibrations. Et ces vibrations-là, elles n'ont rien à voir avec la distance. Moi, par exemple, après-demain, on sera parti. Je pourrais penser à toi très fort, et t'envoyer des mots, des bénédictions de façon vibratoire, et je sais que ça va t'atteindre.
Oh, c'est un super facteur.
Ah, c'est incroyable. je suis sûre que ça existe, ça. Et donc, c'est créateur. Je pense que... Alors, le don qui est un peu rapide. Hein. On est créateur de plein de choses rien que par la force de la pensée, avec la pensée qui traverse le cœur.
Voilà, c'est bien résumé comme ça.
C'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Mmh. Et que quand je vais envoyer une pensée pleine d'amour vers quelqu'un, ça va ou vers un objectif, ou vers un projet, ça crée quelque chose. Ça envoie de l'onde là. Et il y a tout qui s'organise autour. Je crois en ça, en particulier en ayant pratiqué le Ho'oponopono.
Ah! Alors, je vais nous en dire un mot.
Le Ho'oponopono, c'est un truc de dingue. Quand j'ai compris ce que c'était, je me suis dit, punaise, ça c'est super, je vais faire une expérimentation. Si on me dit que ça marche, je vais essayer. J'ai pensé à quelqu'un avec qui j'étais en profond, une profonde rupture, on va dire, de lien. Quelqu'un de proche. Hein, quelqu'un avec qui je ne parlais plus depuis 10-15 ans, je pense. Et j'ai fait Ho'oponopono en vraiment très concentré, dans un état méditatif très fort. Cette personne m'a appelé le lendemain.
Mais qu'est-ce que Ho'oponopono ?
Ho'oponopono, c'est quoi ? C'est une prière polynésienne qui nous a été transmise par un médecin psychiatre. C'est en fait l'idée, en Polynésie, on se remet en cercle, en famille ou dans un village, quand on sent qu'il y a eu des blessures, et on va faire cette prière collective aux esprits de l'amour, en disant « désolé d'avoir blessé l'amour là, entre nous. Pardon d'être à l'origine. Pardon de cette blessure, parce que je suis créateur de cette blessure-là. Merci, ça me permet de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose, de voir qu'il y a quelque chose de précieux qui me lie avec les autres, que le lien avec celui-là que j'ai blessé, il a été écorné, il va falloir réparer. Merci de m'apprendre tout ça. Et puis je t'aime. Voilà, je remets de l'amour dans le système. Et cette prière-là, collective, on n'a pas besoin de débriefer de quoi il s'agit. Eh bien, ça permet de réparer les liens. Ça permet de réparer les liens d'amour qui ont été blessés.
Et
j'en ai fait l'expérience.
Et la personne t'a appelé le lendemain.
Elle m'a appelé le lendemain, elle m'a appelé pendant 2 heures.
Waouh.
Et alors, et le surlendemain, elle m'a encore appelé, elle m'a encore parlé pendant 2 heures. Et là, je me suis dit, mais faut pas faire Ho'oponopono n'importe comment.
T'auras beaucoup d'appels.
Parce que, est-ce que je suis capable, après, d'assumer ça? Est-ce que je suis capable de me rendre compte que je vais réparer quelque chose, ça va créer quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir l'assumer? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je vais être en capacité de donner tout cet amour que je viens de réparer? Et donc, ça m'a permis de me poser des questions et de me dire OK, c'est bien beau de vouloir réparer à fond, mais est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est possible? C'est pas qu'une petite expérience, il y a une conséquence. Et c'est très amusant parce que cette personne-là, très peu de temps après, a rencontré la femme avec qui il vit encore aujourd'hui. Donc, wow. Je ne veux pas dire que j'en suis à l'origine, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, je ne peux qu'observer. Observer, je ne fais pas de lien, parce que ce n'est pas très scientifique comme approche, mais je ne peux qu'observer que plus on pose des intentions, plus on prie, on peut dire autrement, on médite et puis on envoie
quelque chose.
Quelque chose et ça crée.
Et on décide de ce que on décide, ce que j'entends dans ce que tu dis, on décide de ce que l'on envoie consciemment. On pose l'intention d'envoyer telle ou telle chose.
Ce qui est intéressant, c'est d'être de plus en plus consciente de ça. Parce que tu peux envoyer n'importe quoi. Si tu ne fais pas attention, tu peux envoyer de la haine. Donc tu peux envoyer de tout. Et les mots que tu utilises aussi sont créateurs. Et donc d'être conscient de tout ça, alors ça veut dire qu'aussi de temps en temps on lâche prise, on n'en a pas tout le temps à être hyper conscient, c'est juste pas possible. Mais il y a des moments, c'est intéressant de pouvoir l'être, par exemple en équipe, dans une entreprise, on veut faire un changement, on crée un changement, c'est très important de se rendre compte qu'il y a un moment important de se poser ensemble et d'envoyer cette énergie sur ce projet et d'envoyer des forces d'intention vers un objectif. Et d'être dans cette. De vérifier qu'il y a cet état. Alors, en entreprise, on n'utilise pas trop ce mot d'amour, mais envoyer cet état d'envie et de joie et d'enthousiasme vers ce projet-là.
Oui, et puis à titre sociétal, on peut s'interroger aussi à. Moi, je ressens comme un cercle parfois vicieux de. Il y a un potentiel danger, donc il y a de la peur qui est ressentie. Donc, ce qui est envoyé par les gens, c'est de la peur. Donc, ça entretient ce climat, etc., etc.
Mais si on n'est pas la peur est précieuse. La peur est précieuse. Pablo Servigne, avec la théorie de l'effondrement. Enfin, je ne sais pas si c'est tellement une théorie, mais en tout cas, ces observations qui on va vers l'effondrement, la collapsologie, a permis à beaucoup de gens d'avoir peur. Mais c'est vachement important de connecter cette peur. Parce que sans la peur, on ne sait pas que quelque chose de précieux est en train d'être perdu. Et donc, si je n'ai pas conscience de quelque chose de précieux va être perdu, je ne peux pas me mettre en colère contre. Alors, les émotions qui nous secouent, qu'on n'aime pas beaucoup parce que ça nous fait mal, elles sont hyper importantes pour bouger nos fesses. Et ça, on ne peut pas croire qu'on change dans la ouate, dans la douceur. En tout cas, moi, je pense que la souffrance est salutaire. la douleur, est, enfin la souffrance, ça, c'est dur de dire ça, la douleur est, nous montre quelque chose d'important. Y mettre de la souffrance, bon, c'est se faire mal un peu de trop. Mais la douleur est importante, la peur est importante, la colère est importante, le dégoût est important. On a appris à refouler ces émotions-là. C'est dommage parce qu'on perd du temps.
Alors ça, c'est une super... du coup, tu me tends une super perche. Comment... justement, comment... non pas on les dépasse... mais on vit avec, on les apprivoise et on s'en sert en fait quelque part, même si le mot n'est pas approprié.
Alors moi j'ai des moments de profond désarroi, de peur, de tristesse immense pour la Terre, que je partage en particulier avec une de mes filles et puis et mon fils. De temps en temps mon fils me dit « j'ai mal à la planète ». Et quand je dis ça, je vois de quoi il parle et je partage cette profonde tristesse. Et du coup, bah, vaut mieux la traverser, cette tristesse, pour voir, mais finalement, elle vient d'où cette tristesse ? Et on se rend compte qu'on est profondément attaché à notre terre, on est profondément attaché à cet écosystème d'où on vient. Et il y a des moments dans notre vie où on s'en détache, on devient un être hors sol. Mais tous, hein, et moi aussi, et l'expérimenter nous permet de retrouver le sol. C'est parce que j'ai quitté le sol que je me rends compte qu'il est important, ce sol. Et j'espère que je ne suis pas en train de perdre tout le monde là, quand je parle. Mais...
je trouve ça clair.
Après, c'est clair pour toi.
Pour moi, c'est très clair.
Et donc, quand on fait face à cette peur, alors ça prend du temps. Hein, plutôt que d'avoir peur de la peur, c'est d'affronter sa peur et de dire, ouais, ok, qu'est-ce qui ferait que je me sentirais en sécurité, rassurée ? Et du coup, je vais mettre mon énergie à protéger ça.
Tu vas agir.
On va agir. Mmh. Oui. La réaction face à la peur, c'est de partir se cacher dans sa grotte, se mettre en sécurité avec des gens qu'on aime. Et c'est OK. Sauf qu'à un moment donné, il faut sortir de sa grotte. Mmh. Je pense, pour agir. Mmh. Mais okay. Tout le monde n'a pas envie d'agir. C'est pas grave. Il suffit d'un nombre, certains. Hein, et après, il y aura une force d'entraînement.
En tout cas, ce que tu es en train de dire quand même et que je trouve merveilleux, c'est que nos émotions ne sont pas du tout notre ennemi. Il n'y a pas à les refouler. Au contraire, elles nous indiquent comme un tableau de bord comment agir de manière juste. Moi, c'est ce que j'entends, ce que tu dis.
Moi, ce que j'expérimente, je ne sais pas si c'est exactement toujours que ça qu'il faut faire. Ou... en tout cas, moi, j'ai besoin du coup, quand j'ai des émotions comme ça qui montent, de me poser. De me déposer et de traverser ça et pour y voir clair. J'ai besoin d'une lampe torche à ce moment-là, d'y voir clair, de mettre les bons mots et on le sent en nous hein, quand on trouve les bons mots. Ah oui, c'est ça qui est précieux pour moi. C'est cet être-là, cette personne-là qui est importante pour moi. Et après, moi, je fais des demandes en fait. Je fais des demandes qu'on m'aide pour voir clair. Et donc, en général, l'information vient. Hein. J'ai la chance d'avoir pu apprendre l'hypnose. L'hypnose, c'est une façon de parler à son inconscient. Et son inconscient était extrêmement intelligent. Il sait énormément de choses. L'inconscient, c'est tout. Il a tout enregistré. Donc, il a toute l'info. Alors, il va me donner plein d'infos si je lui demande. Puis, il est sympa avec moi. Il me répond. Et ça, on a accès tous à ça.
Comment tu lui demandes là, concrètement, si tu devais donner un petit conseil, je sais que c'est très terre à terre, mais un petit truc, tu fais comment toi ?
Alors, dans ma vie privée comme dans mon boulot, par exemple dans mon boulot, quand je suis avec un client ou une équipe avec un dirigeant et que je vois avec un collègue avec qui je travaille souvent, mais on voit qu'il y a une difficulté dans le système, une colère, un agacement, quelque chose qui gratte. Et on voit où ça se sclérose, en fait. Et bien là, je demande de l'information. Je demande à voir ce qui se passe. Et souvent, on a du coup des événements qui se passent où on peut y voir plus clair. Alors c'est souvent, ça gratte, c'est des événements justement où ça gratte beaucoup et qui nous permettent de voir où est le problème. Ça s'appelle le reflet systémique. Hein,
oui, tu veux dire, si je fais les sous-titres, hein, oui, que tu poses une intention d'avoir une situation, quelque chose qui se passe pour éclairer la situation.
Alors, c'est oui. Alors, de plus en plus, je sais qu'elle va venir, même si je ne la demande pas, parce qu'en fait, on est là pour. On nous a demandé d'être là pour.
C'est fait comme ça.
On nous a appelés pour agir dans ce système-là. Mm. Donc, on va voir ce qui se... On va être témoin. Et parfois, on va être happé dedans. Et à nous d'avoir cette capacité de recul, d'être dans cette parole authentique entre consultants, d'apporter cette parole authentique avec les clients, petit à petit, parce que c'est pas si simple hein, à adopter, oui. et en tout cas de poser des intentions, et n'importe quel petit pas c'est déjà une victoire. Mmh. Et parfois les choses s'arrêtent avant que les choses soient résolues, mais les petits pas sont extrêmement importants. On n'est pas tout puissant, en fait. Et en fait, un système va avancer en fonction de son rythme à lui. Et on va pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse, tu vois ce que je veux dire ou...
Complètement. Ce que je trouve très précieux, et tu me corriges hein, si je dis pas les choses correctement, ce que j'entends moi dans ce que tu dis, c'est... Ouais, en fait, il faut faire confiance parce que moi, je sais que j'ai longtemps résisté à des situations. Je me suis énervée contre des situations alors qu'elles étaient là pour juste me montrer des choses et que j'en prenne conscience, quoi.
Oui.
Et si je surfe un peu la vie plutôt que de résister,
oui,
c'est quand même vachement plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est confortable.
C'est pas confortable du tout. Et c'est ça qu'il faut accueillir. Mmh. L'inconfort fait partie du schmilblick.
Ah, c'est un peu dans le jeu, quoi.
Et, par exemple, dans la vie privée, hein, dans le perso, je peux être très, très agacée de certains comportements, hein, comme tout le monde, face à ses enfants, face à son conjoint, face à ses parents, etc. Et puis Dieu sait que j'ai traversé un certain nombre d'années à essayer de comprendre ce qui se passait, parce que je voyais bien qu'il y avait un problème et j'arrivais pas à voir quoi, etc. Et les épreuves sont là pour nous montrer finalement nos zones d'ombre à nous. Et on les projette souvent sur les autres parce que ça nous arrange. Mais c'est aussi une formidable façon de faire pour voir. Parce que si je projette sur l'autre, je peux voir du coup quelque chose à l'extérieur de moi avant d'être capable de le regarder à l'intérieur de moi. Et là, très récemment, j'ai vu, finalement, je me sentais dans ma relation avec mon conjoint, je me sentais pas reconnue, je me sentais humiliée, je me sentais vraiment pas bien du tout. Jusqu'au moment où j'ai compris que j'humiliais aussi. Et quand j'ai vu ça, j'ai pu me dire « Ah, oh, c'est pas beau, ah, c'est moche. Hein » Mais aussi, j'ai pu dire « Bon, alors je me positionne comment ?» Ben, je dis que non, moi, je veux plus savoir faire ça. Mais si t'arrives pas à le voir que c'est dedans, toi, tu peux pas te positionner.
Non, mais ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est sans doute le meilleur conseil que t'es en train de donner là. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Ça dit quelque chose sur soi, à l'intérieur.
Mais ça, j'ai mis des années à comprendre ça. C'est très compliqué à comprendre ça.
Entendez ce mot.
Mais c'est très compliqué à entendre ça, à comprendre ça dans sa chair. C'est très compliqué, je trouve, à arriver à faire ça. Moi, j'ai été longtemps agacée, en colère contre ces personnes qui me parlaient de cet effet miroir-là. Et je leur disais, vous me faites chier, vous me faites mal, et je ne veux pas comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Et ça, je pense que ça fait partie de la vie. Il y a un moment où c'est possible. Mais il faut le vouloir très fort.
Moi, c'est ça. J'allais dire, qu'est-ce qui a rendu ça possible ?
J'ai toujours voulu avancer, évoluer. Petite, je m'étais dit, je me souviens de ce soir-là, j'avais ouvert la fenêtre.
Quel âge ?
Ouf, ça devait être 8 ans, 9 ans. J'avais ouvert la fenêtre et j'avais prié Sainte Marie, hein, parce que moi j'aimais bien moi, la religion catholique et protestante. Et j'avais dit, je sais que l'amour existe. mais je veux le rencontrer dans ma vie. Je vivais des choses pas forcément simples au sein de ma famille. Moi, j'ai eu une éducation... On vivait dans le confort. Hein. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont bien géré leur vie et qui ont bien gagné leur vie. On en a bien profité matériellement. Et en même temps, j'ai eu une éducation dans la violence. Dans les mots, une violence psychologique et parfois une violence physique aussi. Et petite, je savais que l'amour existait. Et je voulais le rencontrer. Et je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu ça. Je veux rencontrer la voie de l'amour. Je veux rencontrer ça.
Et c'est le lien que tu fais avec, quand je posais la question, qu'est-ce qui fait que tu as pu réaliser que ce qui se passait à l'extérieur, c'était un reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est parce que tu le voulais. C'est parce que tu avais posé cette intention très jeune, en fait.
Oui, il faut faire gaffe avec ces intentions parce que c'est réalisateur. Et il vous arrive ce que vous demandez. Il faut être prêt à affronter ça. J'ai eu la chance de rencontrer un maître spirituel qui disait sur votre chemin il y a des géants à abattre, c'est le ressentiment par exemple, la jalousie, hein. Et moi je me disais, en sortant de ces enseignements là, je me disais, je veux rencontrer la jalousie pour pouvoir combattre ça. Et il m'arrivait des épreuves très fortes de jalousie. Et punaise, c'est pas cool, hein. Ça fait mal, et de se sentir être jaloux, c'est affreux.
Ça ronge,
c'est affreux. Et puis en fait, je pensais que je ne l'étais pas. Eh bien si. Et donc c'est une fois que tu l'as rencontré que tu peux décider que tu ne le veux plus. C'est pas en le refoulant que tu y arrives. C'est une fois que tu le vois et que tu dis, waouh, tu fais partie de ma vie, tu es en moi, eh bien ok, mais je peux aussi du coup décider de ne pas te mettre en route, quoi, de ne pas te... Voilà, c'est
une amie indienne qui me disait toujours, enfin elle parlait, c'était en anglais mais je le dis en français, va prendre le thé avec, en l'occurrence elle parlait souvent de la peur, va prendre le thé avec ta peur, va prendre le thé avec ta jalousie, vas-y.
Oui, ça fait peur, c'est pas confortable du tout, ça a un impact moi ça a eu des impacts dans ma vie en relation avec les gens proches. Mais c'est ce qui rend la vie intéressante, en fait. Et je me demande si on n'est pas sur cette terre rien que pour ce genre d'expérimentation. Et un jour, je me suis dit, mais si je peux me souhaiter de la jalousie, si je peux me souhaiter du ressentiment, je peux aussi me souhaiter l'amour, la joie, la création, la créativité.
C'est génial. Ça me permet de... On a parcouru une grande spirale, un bout de spirale en tout cas. Et en fait, je vais te poser la question du début, presque un petit peu plus à la fin. Quel lien est-ce que tu fais, du coup, aujourd'hui, entre qui tu es dedans et ce que tu fais dehors, alors ? En ayant exploré tout ça, on a parlé de plein de choses, là. Quel lien tu fais ? C'est quoi le pont ?
Eh bien, aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui viennent vers moi, en fait. Et elles viennent vers moi, je ne sais pas comment. Et je me dis, si j'ai un lien avec ces personnes-là, je vais être vraiment qui je suis avec ces personnes-là. Et je vais leur donner tout ce que j'ai compris dont elles auraient peut-être besoin aujourd'hui. Et elles prendront ce qu'elles ont à prendre. Moi, je ne sais pas ce dont elles ont besoin, mais elles prendront ce qu'elles ont à prendre. Moi, j'ai un gros paquet de graines.
On l'a entendu.
J'ai un gros paquet de graines. J'ai un terreau qui vient. Je rencontre un terreau qui a aussi un gros paquet de graines. Hein, et moi aussi, j'ai un terreau. Et on va voir les graines qu'on va se lancer mutuellement, parce qu'en fait, c'est toujours mutuel. C'est pas moi qui offre à l'autre, plus que l'autre qui offre à moi. Et je vais voir ce qui pousse. Et l'autre va voir ce qui pousse. Et parfois, je sais pas du tout ce qui a poussé chez l'autre, mais. Voilà, je vois ça comme ça. Moi, je suis une semeuse, je suis un terreau semeur.
Ah, je trouve que ça te va bien. je résiste quand même pas à la question puisque ça fait partie de l'idée de ce podcast. C'est quoi la spiritualité pour toi ? On en a pas mal parlé aussi là depuis quelques grandes minutes.
Oui. Je vais encore te parler de cette personne. Qui, qui finalement m'a beaucoup enseignée. Et puis finalement, c'est aussi ce qu'on lit dans beaucoup de livres, ce qu'on entend dans beaucoup de chansons, c'est ce qu'on observe dans beaucoup de choses. Tout est spirituel, en fait. C'est une banalité que de dire ça. Il y a des gens qui le disent franchement, là, légèrement, mais ils ont raison. Tout est esprit. Tu vois, on a un tabouret devant nous, c'est pour les auditeurs, nous avons un super petit tabouret devant nous. Avant d'exister, ça a été imaginé, ça a été un esprit. Après, il y a eu de la matière, il y a eu de l'information, et ça s'est incarné comme ça. Mais il y a un esprit là-dessous. Et il y a un esprit dans toute chose. Et pour comprendre quelque chose, il faut aller toucher son esprit. Ouais. Et ouais. Quand je regarde quelqu'un, peu importe les comportements, du coup, il y a un esprit derrière. Et c'est ça que je regarde. Et c'est ça que je veux toucher. C'est quoi l'esprit derrière ? Et quand tu as, par exemple, une situation ou un problème, il y a un esprit du problème. C'est quoi ce qu'il me raconte ? C'est quoi l'information ? C'est quoi l'énergie ? C'est un concept ? C'est quoi l'esprit de ce concept ? Il y a une tradition, c'est quoi l'esprit de cette tradition ? Et j'ai remarqué que quand j'ai le temps, hein, parce que ça demande de se poser ça, quand j'ai le temps de me mettre dans cet état-là de la rencontre de l'esprit des choses et l'esprit des mondes, l'esprit des gens, eh ben t'as de l'information.
Mmh. Et comment, justement, pour faire un autre pont entre spiritualité et créativité, ou création, hein, comment l'esprit devient matière alors ? Devient quelque chose de tangible que l'on peut toucher, que nous tous, être incarnés, on peut toucher, voir avec nos sens. Comment cet esprit... c'est une question difficile, j'en suis bien consciente.
Alors, j'ai la chance de lire avec mon fils un feuilleton, s'appelle La naissance du monde. Il y a un livre comme ça qui... Il y a une édition qui édite des feuilletons. Il y a le feuilleton d'Hermès, le feuilleton d'Ulysse. Et là, il y avait le feuilleton La naissance du monde. Et donc, c'est de ce livre-là que, à partir de ce que j'ai lu là, que je vais te... La préface est écrite par Aurélien Barraud. Hein, donc, les gens iront chercher sur Internet si ça les intéresse. En fait, il faut voir qu'au début... Au début de la création de l'univers, toute l'énergie de l'univers, c'était comme un encore plus petit qu'un point, au creux de ta main, hein, mais extrêmement chaud. Et tout est parti de là. Et toute la matière qu'on voit aujourd'hui dans notre univers est partie de ce tout petit point chaud d'énergie. Extrêmement chaud, hein. Il y a plein de zéros, des milliards de degrés Celsius. Enfin bon, vous lirez le bouquin. Mais la matière, c'est de l'énergie concentrée.
Par l'esprit ?
Eh ben,
on ne sait pas trop.
Par ce qui est derrière. Hein ? Et donc, nous, on est des créateurs parce qu'on chope des idées qui flotte hein, dans le monde des idées. Et celui qui est une antenne là, pour cette idée-là va choper l'idée, il va lui donner de l'énergie et il va organiser la matière pour créer ce que l'idée lui a soufflé dans l'oreille. Mm. Voilà, c'est comme ça, je pense, qu'on crée les choses et que ça s'incarne.
C'est nous le pont, alors ?
Mais c'est nous, c'est les fleurs, c'est les abeilles. Mm. C'est l'abeille, elle met toute son énergie à aller butiner et à fabriquer du miel. Elle met toute son énergie à élever les larves. Elle met toute son énergie à construire la ruche.
Et comment t'as su, toi, à quoi mettre ton énergie alors ?
Moi, j'ai mis toute mon énergie pendant plus de 25 ans à sortir, à comprendre ce qui m'arrivait, pourquoi j'arrivais pas à vivre une vie totalement tournée vers vers le futur, vers devant moi. J'étais happée par derrière moi. J'étais engluée dans une emprise morbide, comment dire, par par une éducation. Et j'ai mis toute mon énergie pour sortir de là. J'ai voulu sortir de la violence, d'un système de violence. J'ai beaucoup de compassion pour les enfants qui ont vécu des violences psychologiques, des violences physiques. On entend aujourd'hui beaucoup de femmes mettre sur haut-parleur qu'elles ont vécu des violences, des harcèlements. Hein, il y a tout ce mouvement MeToo, etc. Mmh. Le jour où tous les enfants qui... Alors, on va être nombreux parce qu'en fait, on blesse tous. Hein, mais des enfants qui ont eu des parents particulièrement néfastes dans leur... qui n'ont pas su aimer, hein, mais aimer de façon à élever l'enfant. Élever l'enfant, c'est le rendre plus haut. Hein, mais des parents qui ont mis sous cloche ou qui n'ont pas su vraiment... Suzanne Forward a extrêmement bien écrit là-dessus. Hein, ces mères qui ne savent pas aimer... Je ne les blâme pas parce qu'elles ont dû certainement souffrir beaucoup, mais du coup, elles ont transmis cette souffrance à leurs enfants. Et ça, j'espère de tout cœur que c'est quelque chose qui va être de plus en plus mis en lumière, que tous ces enfants qui ont beaucoup, beaucoup souffert trouvent la voie de l'amour. Et moi, j'ai voulu vraiment sortir de ça, me désengluer. Alors, ce désengluement, il s'est fait il n'y a pas très très longtemps. Et enfin, je peux regarder devant, en fait. Et tout ce que j'ai lu, appris, compris, avec ce but de sortir de cette glu de l'emprise, me sert aujourd'hui à aider tout un tas de situations. J'ai eu la chance de pouvoir faire une formation de constellation familiale. C'est un outil absolument génial. Je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup pour moi, pour mon système familial, pour me libérer, pour que mes enfants ne portent plus de fardeau. Enfin, ils en porteront quand même, hein, mais j'espère un peu moins. Et ben du coup, tout ce que j'ai appris pour moi me sortir de cette glu, ben maintenant je peux l'offrir à...
Ouais, génial, on a de la chance.
Voilà, je peux l'offrir à ceux qui veulent.
On arrive à la fin de cet épisode. J'ai quelques questions un petit peu rafales, rapides pour toi. Alors dans le désordre, Caroline, qu'est-ce qui te fait profondément vibrer aujourd'hui ?
Ce qui me fait profondément vibrer, c'est quand de temps en temps je connecte cette force de vie, la force de vie, ce mouvement de vie qui nous entraîne. Tu l'as là. On regarde, on a des pâquerettes, on a des pissenlits, on a de l'herbe, on a et quand tu ça me fait profondément vibrer la vie quand je vois les bourgeons. Alors là, on est au printemps, c'est absolument fabuleux. Ça me fait vibrer. Et cette force de vie, on peut la connecter partout, en fait. Mmh. Et moi, quand je connecte ça, ça me fait profondément vibrer.
Qu'est-ce que la Caroline d'aujourd'hui a envie de dire à la Caroline d'il y a 10 ans ?
Accroche-toi ! Accroche-toi ! Tu vas y arriver ? Accroche-toi ! Accroche-toi ! Continue ! Continue ! Je t'aime ! Je t'aime ! T'es formidable ! Ah ouais, j'ai beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vais pleurer.
Qu'est-ce que la Caroline dans 10 ans dit à la Caroline d'aujourd'hui ?
Accroche-toi !
Qu'est-ce qui te met en colère, Caroline ?
Ce qui me met en colère, c'est quand, factuellement, il devient évident qu'il faut faire des choix. Courageux. Ce qui me met en colère, c'est quand les personnes qui ont le pouvoir n'ont pas ce courage. C'est quand l'objectif individuel prend le pas sur l'objectif collectif. C'est quand c'est quand je suis déçue de ce manque de courage, quitte à perdre les élections, quitte à perdre son fric, quitte à perdre, au moins je peux mourir à la conscience tranquille. Et moi, c'est ça qui me met en colère, c'est ça. Ça met en colère, c'est consensus mou. On peut ne pas être d'accord avec ce que dit Greta Thunberg, par exemple, hein, pour citer cette personne qui montre la colère. Et on peut ne pas être d'accord. On peut dire oui, elle est manipulée, tout ça, on peut. Mais ce qu'elle dit est vrai. C'est... Soyons courageux, allons-y. On va perdre des choses, mais on va en gagner d'autres. Et il faut construire quelque chose de différent. Allez-y, on y va. On y va.
Eh ben, c'est une parfaite transition. Je pense que tu l'as vraiment démontré. On en a parlé beaucoup. La parole est créatrice.
Oui.
Qu'est-ce que tu as envie d'oser dire encore plus haut et encore plus fort en quelques mots, là, justement ?
Ça fout les boules, mais il faut y aller. Voilà, ça fait peur, mais ensemble, on va y arriver, on va inventer un truc. On a peur, mais si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose de précieux à protéger. Et puis, commençons par nous, par nous-mêmes, par nous et notre petit cercle autour de nous. Nous et la rue dans laquelle on habite, les gens qui sont autour, commençons par nous. Et ça va infuser.
Alors, vous l'avez compris, je le redis. Caroline est une bibliothèque vivante et bien plus. Tu as déjà mentionné pas mal de choses pendant cet entretien, une porte qui claque. Aurais-tu trois ressources, des lieux, des vidéos, des bouquins que tu as envie de transmettre là, en tout cas de conseiller, des choses qui te viennent en tête ?
Alors pour les jeunes, j'ai découvert un bouquin « Sinoué l'Égyptien » de Mika Waltari. C'est une épopée, c'est un ami de cœur qui me l'a donné un jour à lire. Et ça fait ouvrir l'esprit, ouvrir le cœur au voyage. « Sinoué l'Égyptien » de Mika Waltari. Pour tout le monde, là j'ai un livre de, je pense c'est Arun Gandhi, Le pouvoir de la colère. Tu m'as parlé de la colère. Le pouvoir de la colère, à lire et relire. Je crois que c'est le petit-fils de Gandhi qui raconte. Et c'est vraiment très très chouette. Il y a un millier de livres à peu près que je pourrais vous conseiller. Je ne sais pas trop lesquels choisir. Je viens de lire Le bleu du ciel. Je pense que son nom de l'autrice, c'est Mélissa Dacosta, il me semble. Si je l'écorne, je suis désolée, le nom. C'est fabuleux. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Elle a réussi à mettre dans son livre des choses essentielles, magnifiques. Et puis, podcast, moi, j'aime bien parler de bons potes. Bon pote qui permet de garder un esprit critique. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de podcasts. Il y a le podcast Time to Shift aussi. C'est des podcasts très courts, très simples. Ça va right to the point. C'est très précis. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses j'oublie.
Merci beaucoup, Caroline. La dernière question, c'est une question surprise. Y a-t-il une question que tu as envie que je te pose ? Et si oui, laquelle ?
Oui, la question que tu m'as pas posée, c'est j'ai parlé de cette éducation dans la violence. J'ai eu beaucoup de colère, de ressentiment et d'incompréhension vis-à-vis de mes parents. J'ai même haï mes parents. Aujourd'hui, je suis contente que tu me poses la question de savoir si je les aime à nouveau.
Est-ce que tu aimes tes parents à nouveau, Caroline ?
Oui, j'aime qu'ils m'aient donné la vie. Voilà. Et je leur en remercie vraiment profondément pour ça.
Merci beaucoup, Caroline. Ce sixième épisode de Créez-moi sur parole était le premier enregistré au Moulin du Rose. Merci du fond du cœur à Caroline d'avoir traversé la Bretagne pour cette première. Merci à vous d'être allé jusqu'au bout. J'espère que l'atmosphère buissonnante printanière aura quelque peu transpiré. Et surtout, merci à Caroline pour la richesse de cet échange et pour avoir donné sans compter. Je ne sais pas vous, mais moi je quitte cette discussion le sourire aux lèvres et le cerveau en ébullition. Je sais qu'il me faudra du temps pour assimiler tout ce que Caroline nous a transmis. Je crois d'ailleurs qu'elle n'a pas seulement parlé à mon mental, mais aussi à mon esprit. Je suis donc ravie de ne pas avoir tout de suite tout compris. Ce qui compte, c'est l'émotion que cet épisode aura suscité. le déclic ou l'étincelle qu'elle aura peut-être provoqué. Maintenant, ou plus tard, qui sait. C'est ça la magie. Je repars moi avec l'idée que oui, ça secoue, mais qu'il faut s'accrocher. Avec l'envie de toujours plus oser regarder où j'ai mal et le transformer en une énergie pour créer. Je repars aussi et surtout avec l'énergie de lionne que Caroline m'a inspirée et la confiance que ma vie m'indique où aller. Ce que, en moi, je suis invitée à transformer. Que c'est aussi comme ça que le monde va changer. Alors oui, ça fout les boules, mais il faut y aller. C'est le moment d'oser, cesser de refouler ce qui nous fait hurler. Notre folie, c'est notre singularité. Et c'est ce que le monde vous convoque aujourd'hui urgemment à exprimer.